penser, donc je vais demander peut-être à Dieu prier. Amen. Bien, je voudrais vous faire une lecture dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, et c'est au chapitre 12. Alors, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Hébreux chapitre 12, versets 12 à 17. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Et vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alors, dans ce texte biblique, on trouve un personnage biblique qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et ce personnage biblique, eh bien, c'est Ésaü. Ésaü est un homme particulier. Ésaü était un homme fort, un homme des bois, un homme des prairies, un homme de la campagne, une sorte de vagabond un peu partout. Et quand vous lisez bien son histoire, vous voyez qu'il était à la tête d'une bande de pillards et il est devenu le fondateur d'un royaume. Voilà, c'est le royaume des Édomites. Édom et Ésaü, c'est la même chose. Hein. Donc cet homme, eh bien, avait le droit d'aînesse. Nous ne savons pas trop ce qu'est le droit d'aînesse. On se souvient que avant la Révolution française, il y avait le droit d'aînesse et que ça a été aboli avec l'abolition des privilèges. C'est de l'histoire, ça. Mais le droit d'aînesse, c'était du temps des patriarches, un droit exclusif du premier-né. C'était le droit privilégié. C'est dans le système patriarcal, l'aîné devenait obligatoirement le chef de la tribu. C'est comme Abraham avait 300 serviteurs. Il avait tout le reste. Et puis on retrouve les autres patriarches. Et le fils aîné, par le fait même, devenait le possesseur de tout. Et le frère cadet, ben, il devait se contenter de la suite, ce qu'il pouvait. Alors souvent, il restait dans la famille et il faisait partie de la tribu. Et Ésaü, eh bien, était un homme particulièrement vigoureux et il allait faire de la chasse, il allait faire de toutes sortes de choses. Il partait probablement pendant longtemps, il revenait. Et puis, un jour, à son retour, il était en faiblesse. Alors on pourrait dire aujourd'hui, hein, il était en hypoglycémie. C'est tout simplement, tout bêtement, il avait trop présumé de ses forces. Il croyait qu'il était invincible et capable de tout. Et puis un jour, eh bien, il est arrivé épuisé, mais complètement, ce qui s'appelle épuisé. Et si vous avez été en hypoglycémie, vous savez que c'est un très grave problème. Hein. Ça m'est arrivé, et je peux vous dire, on mange n'importe quoi. Hein. Parce qu'il faut manger absolument et ça donne une certaine satisfaction. Certainement, ça ne résout pas le problème immédiatement, mais on est quand même assez. La raison ne suit pas. Et alors, Ésaü, eh bien, est arrivé et Jacob, son frère cadet, c'était des jumeaux, hein. Mais à quelques minutes de différence, eh bien, Ésaü était né le premier. Et alors, et Jacob était au contraire un homme paisible qui vivait dans les tentes, qui s'occupait des choses d'intérieur. Et alors, il était en train de cuisiner des lentilles. C'est tout bêtement un plat de lentilles. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans, hein? Je ne peux pas vous dire à part les lentilles. Mais ça devait avoir une bonne odeur. Et alors, quand Ésaü est arrivé affamé de ses chasses et de ses péripéties à la campagne, et il a senti l'odeur, son hypoglycémie a été exacerbée, Et il voulut manger de ce plat de lentilles absolument. Et Jacob, qui était un petit malin, il lui a dit, ah, tu en as besoin de ces lentilles, je te les vends. Alors Ésaü a dit, ben oui, j'en ai tellement besoin. Alors il a dit, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, ton droit d'aînesse. C'est-à-dire tout. Et il n'y avait rien d'autre de supérieur au droit d'aînesse. Il a dit, eh ben, pas de problème. Pour ma fin, je supprime le droit d'aînesse. C'est toi le premier-né maintenant. Moi, je suis le cadet. Et alors, il a mangé les lentilles, s'est bien rassasié, il a retrouvé son énergie et il est parti. Sans aucun souci, voilà. C'était fait, tout était bien, voilà. Mais avec le droit d'aînesse, il y avait un peu plus que l'héritage en Israël. Avec le droit d'aînesse, il y avait aussi la bénédiction de Dieu. Et à ce moment-là, Ésaü n'a pas fait que mépriser le droit d'aînesse et le droit à être le premier-né dans la famille et à succéder à Isaac, son père. Mais il a choisi de rejeter la bénédiction de Dieu qui allait avec. Ici, dans cette histoire, on dit qu'il n'y ait ni profane comme Ésaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. C'est un homme qui part simplement. Il était en grande faiblesse, évidemment. C'était quelque chose de très grave que d'être dans cette situation-là. Eh bien, il a méprisé la bénédiction de Dieu. Et je peux vous dire, j'ai connu des personnes qui ont fait un choix dans leur vie, des chrétiens, et je pense à plusieurs noms. C'est des personnes qui, à un moment de leur vie, ont choisi une autre voie, un autre chemin que Dieu destinait pour eux. Et ils ont perdu leur droit d'aînesse. Et je me rappelle d'une personne en particulier qui, un jour, Dieu lui a montré le chemin qu'elle devait suivre. Et à un certain moment, elle a dit non. Et j'ai prié pour cette personne. Et je peux vous dire que j'ai prié avec angoisse. Hein. J'ai prié et j'ai même beaucoup plus qu'une prière. Hein. Et cette personne, à partir du moment où elle a dit non, définitivement, elle est tombée. Et elle est tombée. Et elle est tombée. Et elle est tombée. Aujourd'hui, je ne veux même pas dire le péché dans lequel elle est. Elle est tout à fait en bas. C'était une chrétienne. Ça l'est toujours d'ailleurs. Hein. Mais cette personne-là est tombée de chute en chute, en chute, en chute, jusqu'en bas. Elle a méprisé le droit d'aînesse. Dieu, nous sommes chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur. Un jour, nous sommes passés de la mort à la vie. Je me rappelle le jour où j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Quand j'en parle, je suis toujours ému. Hein. Et ça fait pourtant bien longtemps. Mais c'est comme ça. Jésus-Christ m'a tellement aimé. Il a donné son Fils pour que je puisse être sauvé, pour que je puisse naître de nouveau, pour que je puisse être réconcilié avec lui. Le sang du Fils de Dieu a coulé pour mes péchés. Je suis sauvé. Je suis sauvé par un sacrifice plus grand que tout ce qui peut exister au monde. Je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Le Fils de Dieu a donné sa vie sur une croix pour que je puisse être sauvé. Et moi, dans mon orgueil, dans ma suffisance, je choisis le monde. Je choisis telle direction parce qu'elle me plaît. Je la choisis parce que j'ai des avantages immédiats, des avantages non spirituels, des avantages d'argent, de conjoint, de travail, toutes sortes d'avantages. Je méprise le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour mes péchés. Je le mets de côté. Vous comprenez ? Ce que c'est qu'il n'y ait ni profane comme Ésaü qui, pour un mai, vendit son droit d'aînesse. Notre droit d'aînesse, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de merveilleux. Nous avons le privilège immense de nous adresser à Dieu, de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans la détresse, vous êtes dans n'importe quelle situation. Vous n'avez même pas besoin d'être chez vous ou dans un lieu particulier. Vous êtes dans le métro, vous avez la foule autour de vous, votre cœur est angoissé du Seigneur Jésus. Tu connais l'angoisse de mon cœur. Tu connais ma peine. Viens à mon secours. Et votre voix qui vient du si bas possible, eh bien cette voix, Dieu l'entend. Cette voix dans la détresse, il l'entend. Cela fait partie de votre droit d'aînesse. Quelque chose qui est à vous. C'est votre privilège immense. Vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous êtes une nouvelle créature. Vous pouvez prier. Vous pouvez vous adresser à lui. Vous avez d'autres privilèges du droit d'aînesse. C'est-à-dire que vous avez des frères et sœurs en Christ qui sont comme nous, vous, nés de nouveau, réconciliés avec Dieu. Et ces frères et sœurs, c'est un privilège immense. Vous ne savez pas à quel point la communion fraternelle est un bien précieux. Mais ces personnes qui méprisent le droit d'aînesse, un jour, elles quittent l'Église. Elles préfèrent aller dans le monde. Elles préfèrent aller boire aux fontaines qui sont crevassées, aux eaux amères de ce monde, manger les lentilles qui ne rassasient pas. Et la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, je lui ai dit, tu refuses ton droit d'aînesse, tu rejettes ton droit d'aînesse pour manger des lentilles. Mais un jour, tu ne mangeras plus les lentilles, tu mangeras les pierres qui donnent les lentilles. Et elle est descendue. Et malheureusement, j'avais raison. C'était vrai. Parce que la communion fraternelle, c'est fini. La personne elle-même ne se joint même plus à l'église. Elle ne prie plus. Elle ne lit plus sa Bible. Je me rappelle de plusieurs drames comme cela. De personnes qui ont rejeté leur droit d'aînesse. Et puis un jour, ils arrivent à l'église, le visage froncé, avec un sac à la main. Ce sont les livres chrétiens. Il dit, tenez, prenez ça. Et ils s'en vont. Et alors on a les livres, il y a même leur nom qui est marqué dedans. Et on se dit, ah ça c'est... Et parfois dans l'église, il y a des livres qui traînent comme cela, avec un nom, ou une Bible. Vous avez parfois des Bibles qui sont posées sur une chaise. Vous lisez le nom, ah oui, mais c'était un tel, oui, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oui, mais la personne n'a pas oublié sa Bible, l'a laissée volontairement, a dit, c'est fini. Et cette personne-là a renoncé à la communion fraternelle. Elle a renoncé aux frères et sœurs. Elle a renoncé au privilège de se retrouver dans un culte, de pouvoir prier, de pouvoir intercéder, de pouvoir louer le nom de Dieu. Ces personnes ont refusé de chanter les cantiques. C'est profane. C'est-à-dire quelqu'un qui a regardé les choses saintes, les choses célestes, comme des balayures, comme des ordures, comme des rien du tout. Et elle les a méprisées, mises de côté. C'est quelque chose, vous savez, que de rencontrer des personnes comme cela. Mépriser le droit d'aînesse, avoir rejeté les privilèges. Il y a beaucoup d'autres privilèges. Nous avons le privilège de la foi. Peut-être que le mot ne vous dit pas grand-chose, mais la parole de Dieu nous enseigne que la vie chrétienne est une vie de foi, de confiance en Dieu. Il nous est dit que tout ce que nous demanderons avec foi, vous l'obtiendrez. Vous savez, il y a un grand prédicateur américain qui a dit, ça c'est le chèque en blanc de Dieu. Hein? Là, vous pouvez mettre la somme que vous voulez hein, sur ce chèque. C'est tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Et je peux vous garantir que devant Dieu qui m'écoute, que c'est la vérité absolue, parce que je l'ai expérimenté, parce que notre Dieu exauce les prières faites avec foi, avec une confiance totale, absolue, la confiance d'un enfant avec ses parents. Je veux vous raconter une petite histoire. Une fois, c'était mon petit garçon. Bon, maintenant, c'est un jeune homme. Hein. Il y avait eu un objet contestable que j'avais dit, cet objet-là, il va à la poubelle, on n'en veut pas. Et il fallait le rapporter parce qu'il y avait, il ne marchait pas. Et moi, j'étais ferme, hein, je dis ça, c'est mauvais, il ne faut pas que ce soit à la maison. Et alors, il y avait 15 jours pour rapporter l'objet parce que c'était des soldes qui... Et alors, quand je dis quelque chose, en général, je m'y tiens. Hein. Et puis, le dernier jour, je passe devant cet objet. Je l'ai attrapé, je l'ai amené au magasin où ça avait acheté. Je l'ai changé, je l'ai ramené, je l'ai posé au même endroit. Et voilà. Et alors, quand mes enfants sont arrivés de l'école, moi, j'étais là pour les accueillir. Et mon fils est venu m'embrasser. Il m'a dit, papa, je te remercie d'avoir changé le machin. Et alors, mais il ne savait même pas qu'il était dans le coin, là. Il était dans le même emballage. C'était la même chose. Et il avait prié. Et il avait obtenu que son père, qui est une tête de mule, quand il a dit quelque chose, il le fait toujours, eh bien, il cède. Et qu'il a échangé l'objet. Et mon fils, eh bien, il avait 3 ans et demi. C'est la prière d'un enfant qui croit absolument que son Dieu, auquel il croit, auquel il est attaché absolument, est capable d'agir en sa faveur. Ça, c'est le droit d'aînesse. C'est le droit d'aînesse, mes frères et sœurs. Celui qui a méprisé le droit d'aînesse, il a méprisé cette chose-là aussi. Il a méprisé ce droit de s'adresser à Dieu comme un enfant s'adresse à son père. Il dit, mon père, tu connais mon besoin. Tu connais que mon cœur est vide. Tu connais la peine qui est au fond de mon cœur. Tu connais ceci ou cela. Et avec une foi d'enfant, il attend que son Père céleste ait compassion de lui et intervienne et lui donne ce dont il a besoin. Et gloire à Dieu. Parce que nous avons ce privilège immense, immense. Les privilèges sont par multitude, vous savez. Quand vous lisez votre Bible, vous l'ouvrez. Et combien de fois la chose m'est arrivée ? Je peux vous dire que ça m'est arrivé au moins 5 ou 6 fois cette semaine. Et quand je dis 5 ou 6 fois, je ne sais pas le nombre. Peut-être c'est beaucoup plus. Peut-être que c'est hier, 5 ou 6 fois. J'avais des besoins. J'avais besoin vraiment que Dieu me réponde. Et combien de fois j'ai trouvé un verset qui me parlait, qui me dit « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. » Cette main paternelle qui me montre un verset biblique, qui me dit « Regarde ça, c'est une promesse qui est pour toi. » Et c'est quel privilège d'ouvrir sa Bible et de lire une promesse et d'être encouragé, d'être fortifié. Vous étiez dans la tristesse, vous aviez, et puis voilà, vous avez lu cette promesse et vous êtes restauré, renouvelé. Vous avez repris des forces. C'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. C'est votre droit d'aînesse. C'est votre privilège. C'est la bénédiction de Dieu. Et c'est quelque chose, vous savez, que personne ne peut nous enlever, sauf nous. Nous sommes capables de rejeter le droit d'aînesse et de dire ça, c'est pas pour moi. C'est pour un autre, mais pas pour moi. Moi, j'ai choisi le péché. Moi, j'ai choisi la désobéissance. Parce que le péché et la désobéissance sont meilleurs que les bénédictions de Dieu. Et il faut une ignorance incroyable pour pouvoir dire tout ce que ce monde offre est meilleur que les privilèges et les grâces de Dieu. C'est quelque chose, vous savez. Même les gens de ce monde sont lassés des choses de ce monde. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont les yeux hagards parce que les joies de ce monde ne leur suffisent plus, ils en ont fait le tour. Et plus le monde avance, et plus les choses se font, et plus on est blasé jeune. Parce que à 20 ans, il y a des gens qui ont tout connu. Ils n'ont plus rien à apprendre de la vie. Il n'y a plus de belles choses. Il n'y a plus rien. Certains prennent de l'alcool ou de la drogue. Ils se suicident à petit feu parce qu'il n'y a plus rien. Et nous, chrétiens, on arrive à mépriser les immenses grâces de Dieu pour ces rien du tout, pour ces choses qui sont sans valeur, qui sont sans aucune importance. Vous savez, il y a un autre privilège que nous avons, un privilège immense. Un jour, cette vie va se terminer. Un jour, nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et je vais vous dire quelque chose. Ce jour-là, nous allons rentrer, notre vie bien remplie. Nous avons accompli les promesses de Dieu. Nous avons marché dans la lumière de Dieu. Nous avons fait les choses. Et là, nous allons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il va nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. J'attends ce moment. Entre dans la joie de ton maître. C'est quelque chose, vous savez. C'est immense. Parce que cette vie, maintenant, n'est rien à côté de celle qui est à venir. C'est une vie, notre vie n'est qu'un passage. C'est une vie rapide. Tous ceux qui ont un certain âge vous diront, mais j'étais enfant hier. C'est même si vous arrivez à être plus que centenaire, c'est hier que vous étiez un petit garçon ou une petite fille qui jouait dans la cour de récréation. Les choses passent tellement vite. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Et nous entrons dans l'éternité, les mains vides, dénuées de tout. C'est un malheur, parce que nous avons méprisé le droit d'aînesse. Mais tandis que si nous ne l'avons pas méprisé, nous entrons dans la présence de Dieu, avec des privilèges, avec une action accomplie, en ayant accompli la volonté de Dieu, en ayant fait ce qui plaisait à Dieu, ce qui était agréable à Dieu. Et à ce moment-là, nous avons ce regard bienveillant de Jésus-Christ sur nous. Et il nous dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Prends possession de ce royaume que j'ai réservé pour toi. Et c'est quelque chose de merveilleux. Après, nous pouvons discuter beaucoup de choses, vous savez. On peut être dans comment dire, la divergence d'idées sur beaucoup. Et surtout ce qui va se passer dans le ciel et pour l'éternité. La parole de Dieu ne nous dit pas. On sait qu'il y a de grands privilèges et de grandes bénédictions. Mais je peux vous dire, ce qui nous est réservé dans le ciel est plus grand et plus merveilleux que tout ce que nous avons connu sur la terre. Parce que notre Dieu en réserve bien plus que ce qui est matériel. Ce qui est matériel, vous le connaissez, ça vous fatigue et ça vous lasse. Vous vous fatiguez, écoutez, vous êtes riche, vous mangez ce que vous aimez. Allez, je sais pas, les mets les plus chers qui puissent se faire. Ah, vous, vraiment, c'est le plus cher, il n'y a pas de problème. Vous allez manger aujourd'hui. Et puis vous le mangerez ce soir. Et puis vous le mangerez demain au petit déjeuner. Et vous le mangerez. Mais avant la fin de la semaine, ce que vous aimez tant, vous allez le haïr. Mais c'est toutes ces choses de ce monde, elles finissent par fatiguer. Nous sommes dans l'attente de quelque chose de supérieur, de quelque chose de meilleur. Et c'est ce droit d'aînesse, c'est cette bénédiction de Dieu, c'est ce privilège qui est céleste. C'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir s'attendre à Dieu, de pouvoir regarder vers lui et lui dire un jour, ma place m'est réservée dans le ciel. Un jour, j'entrerai dans la présence de Dieu et là, je serai heureux pour l'éternité. Parce que, vous savez, votre vie est ce qu'elle est. Il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, il y a des gens en bonne santé, il y a des gens malades. Et si vous êtes riche, en bonne santé et que tout va bien pour vous, peut-être vous sentez que cette vie, vous y tenez. Mais si vous êtes malade, si vous souffrez, si vous avez toujours eu des problèmes, on tourne le regard vers l'au-delà et on se dit un jour ça va venir quand même. Hein. Je me rappelle de quelqu'un qui disait, oui, j'espère que cette comédie va bientôt s'arrêter. Ça sera fini. Hein. C'est quelqu'un de blasé, quelqu'un qui n'en peut plus de souffrir. Il attend que la comédie soit finie et qu'il passe de l'autre côté. C'est pour vous dire que selon ce que vous êtes, vous appréciez, vous n'appréciez pas. Tandis que les choses célestes, la bénédiction de Dieu pour l'éternité qui vous est réservée dans le ciel, c'est quelque chose de merveilleux, qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. C'est peut-être que Dieu ne nous a pas donné de détails pour une raison bien simple, que c'est indescriptible, que les mots humains ne suffisent pas, que l'on ne peut pas écrire quelque chose qui nous dise à quoi comparer. Parce que si vous dites on va manger tout le temps, ben, peut-être il y a des éléments de comparaison par rapport à notre vie matérielle de ce monde, mais peut-être que dans l'éternité, eh bien les choses qui vont se passer n'ont aucun rapport avec ce que nous avons sur la terre, et il n'y a aucun mot pour définir et pour dire ce que nous aurons dans l'éternité. Et je vous dis, si ce n'est pas écrit, il est plus que probable que ce soit à cause justement de ce que c'est indescriptible et que les mots humains n'existent pas pour le décrire. C'est pour cela que après, nous avons quelques indices, nous allons revoir Christ face à face, nous allons marcher avec lui, ce qui est déjà beaucoup. Mais les autres choses, nous ne savons pas. Et ça, c'est notre droit d'aînesse, et nous l'attendons. Un jour, nous l'aurons. On prépare ce moment où nous allons rencontrer Christ face à face. Alors, il y a des personnes qui ils n'ont pas méprisé leur droit d'aînesse aussi radicalement que la personne dont j'ai parlé. Hein? Il y a des personnes qui le méprisent d'une autre manière. C'est-à-dire qui choisissent ce qui leur plaît dans la volonté de Dieu. Voilà, ça c'est bon pour moi. Ça... Alors on est un petit peu dans le monde, voilà, et on est un petit peu du côté de Dieu. Ou plutôt parfois on est beaucoup dans le monde, un petit peu du côté de Dieu. Voilà. Ou certains c'est moitié-moitié. C'est... Ils essayent du moins. Mais vous savez, c'est entrer avec la moitié de la récompense, la moitié de la bénédiction, c'est pas rentrer comme il faut. C'est parce que dans les calculs de Dieu, celui qui vit à 90% est comme celui qui vit à 10% dans la bénédiction. Après, moi, ce sont mes chiffres. Hein. Mais j'imagine que la chose est un peu comme ça. Si vous vivez à 90% pour Dieu, il manque 10%. Mais en fait, la bénédiction, la vraie bénédiction, vous l'avez à 10%. Elle est toute petite. Ce que Dieu veut, c'est que ça soit pleinement. C'est, ça soit intense, ça soit une vie chrétienne véritable, où on s'empare des promesses de Dieu, où la vie chrétienne est persévérante, où il y a vraiment, on a le désir de le faire. Parce qu'il y a un mépris du droit d'aînesse qui est dans la forme de... On ne prend pas tout. Donc dans une certaine mesure, on l'a méprisé. Parce qu'on ne l'a pas saisi complètement. Et ne pas le saisir complètement, quelque part, c'est le mépriser. On l'a rejeté un petit peu. Voilà. Il y a des personnes comme cela qui pendant des années et des années et des années vivent au ralenti leur vie chrétienne. Leur vie chrétienne est médiocre. Elle est en demi-teinte. Les choix sont mal faits. On a choisi plutôt les choses de ce monde. Voilà. On n'est pas à 100%. Et le problème, c'est que cela laisse quand même une insatisfaction. On n'est pas satisfait d'une vie chrétienne comme cela. Et il y a beaucoup de chrétiens que je rencontre hein, et qui me disent « Ma vie chrétienne, ça ne va pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, mais ça ne va pas. » Et ils ne sont pas satisfaits. Mais quand on examine un petit peu, on dit « Mais est-ce que ton cœur est vraiment tout entier à Dieu ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas caché ? Est-ce qu'il n'y a pas un péché que tu tolères et que tu caresses ? Est-ce qu'il n'y a pas une liaison qui n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être ? Est-ce que ta vie est vraiment ce qu'elle doit être ? Est-ce que tu as une vraie vie de prière ? Est-ce que tu t'adresses à Dieu ? Est-ce que quand tu lis la Bible, tu cherches à obtenir la volonté de Dieu, à connaître les promesses de Dieu ? La plupart des chrétiens connaissent très peu leur Bible, très peu. Je suis parfois étonné du manque de connaissance de la parole de Dieu. Ils l'ont à peine lu. Ils l'ont peut-être même pas lu une fois en entier. Et il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont jamais approfondi la parole de Dieu. Ils n'ont jamais pris du temps avec Dieu. Ils ont vécu leur vie chrétienne au ralenti. Et cette vie chrétienne vécue au ralenti, eh bien je vous dis, c'est une vie chrétienne où on méprise le droit d'aînesse. Parce que vous pouvez vous faire illusion et vous dire, moi, je n'ai rien rejeté. Je n'ai pas rejeté du tout. J'ai mis en veilleuse. Hein? Ça cuit à feu doux. Mais ce n'est pas comme cela que les choses se font. La vie chrétienne est une vie intense. Dieu demande tout. Je me rappelle un jour, je me suis converti. Jésus-Christ est devenu mon sauveur. Je suis né de nouveau. Et le Seigneur m'a dit de tout laisser et de le suivre. C'est comme ça que je suis pasteur. Il m'a donné un verset. Ils laissèrent tout et le suivirent. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout laissé. Tout. Et même un jour, je vais vous raconter une petite chose. Je n'ai jamais raconté. Alors vous avez le privilège de la chose et il y a bien longtemps, parce que ça date de ma conversion. Et j'avais 19 ans. Alors, j'étais à l'église. Quelle joie, mon salut, c'était vraiment le Seigneur Jésus, mais j'aurais pu toucher sa main, hein, tellement il était prêt. J'avais vraiment tout donné. Il était le Seigneur, il l'est d'ailleurs toujours. Hein. Il était le Seigneur parfait de ma vie. Il n'y avait rien entre lui et moi. Ma joie était complète, totale. Je chantais les cantiques. Un jour, je chantais. Tu me dis, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de chanter? Je ne m'étais même pas rendu compte que je chantais. Un jour, j'étais en train de prier. Je priais sans même me rendre compte que j'étais en train de prier, tellement les choses étaient intenses et fortes. C'était vraiment, je peux vous garantir que je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à Christ. Hein. Et alors, j'étais dans l'église, tout seul. J'ai passé tout un dimanche après-midi, tout seul, assis sur une chaise, et j'ai lu le livre des Proverbes. Quel délice! Je l'ai lu pendant tout l'après-midi. Et un jour, comme cela, j'étais dans l'église, et puis il y a une petite voix au fond qui m'a dit « Donne-moi ta paye. » J'avais ma paye dans la poche. Parce qu'en fait, j'étais dans une école, et je n'aurais pas laissé ma paye dans le tiroir ou dans l'armoire, parce qu'il n'y avait pas de cadenas, il n'y avait rien. Alors la paye, je l'ai transportée, on me l'avait donnée le samedi, donc je ne pouvais pas la mettre ça à la banque, donc j'avais dans ma poche. Et le Seigneur Jésus m'a dit, « Donne-moi ta paye. » C'était dur, vous savez, mais je l'ai fait. Je dis, « Seigneur Jésus, je compte sur toi. Je te remets tout. Même l'impossible, même ce qui me restait pour vivre, c'est ce que j'avais pour vivre, pour un mois. » Eh bien, à ce moment-là, je l'ai donné, parce que j'avais tout donné à Christ. Et vous savez, la joie immense que le Seigneur peut donner, c'est quelque chose, quand vous faites ce geste qui vous demande de renoncer à tout, de tout remettre entre ses mains, de lui obéir d'une manière totale et définitive, contre tout préjugé, contre toute sagesse humaine, contre tout ce qui vient de la chair, qui est de ce monde. Vous dites, Seigneur, je te donne tout. Prends ma vie en main. Elle est à toi. Elle t'appartient. Désormais, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Et il va vous étonner, vous savez, parce qu'il demande tout. Mais à partir du moment où il a tout demandé et où il a tout obtenu, il vous a tout donné. Vous avez la plénitude de Christ. Christ est immense dans votre vie. Il remplit votre cœur. Votre cœur bondit de joie. Votre paix est infinie. Elle ne se lasse pas. Vous êtes dans la joie perpétuelle. Vous lisez votre Bible. C'est un livre ouvert. Tout est clair. Vous savez l'explication de beaucoup de choses parce que vous êtes éclairé dans votre cœur. Tandis que avant d'avoir tout donné, vous pouvez lire votre Bible. C'est un livre mystérieux quand même si vous êtes chrétien. Mais quand c'est donné totalement, il y a une ouverture, un plaisir, une joie. Et je peux vous dire, j'avais noté dans une Bible que j'ai perdue, j'ai oublié un jour dans un train, Dieu le sait, j'ai beaucoup regretté et j'en ai encore de la peine. C'est dans cette Bible, à chaque début de livre, il y avait un numéro. Ce numéro, c'était le temps que je mettais à lire. Ce livre. Alors par exemple, je peux vous dire qu'il me fallait 20 minutes pour lire Philippiens. Il me fallait 20 minutes aussi pour lire Colossiens. Alors, je peux vous dire Colossiens et Philippiens. Je les ai lus tous les jours pendant des années. Et c'est merveilleux, vous savez, de lire Philippiens et Colossiens. J'ai encore ma Bible totalement annotée, mâchurée et remplie de trucs dans Philippiens et Colossiens. Tellement ces livres ont été une passion pour moi. Parce que tout donner à Christ, et il y a ce privilège, c'est le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Vous avez dépassé le niveau médiocre de la vie chrétienne dont certains chrétiens se contentent. Vous savez, vous êtes des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous êtes enfants de Dieu. Vous avez des privilèges qui sont liés à cela. Nés de nouveau, vous êtes passés d'une famille à une autre famille. Ne méprisez pas cela. Vivez-le à 100%, pleinement, complètement. Ne lésinez pas. Et si vous faites le pas, la démarche de vraiment tout donner, alors vous verrez comment Dieu va vous ouvrir les portes, les unes après les autres. Et vous savez, au cours des années, les choses grandissent. Vous vous approfondissez en Christ. Christ devient de plus en plus précieux. Vous avez une joie qui demeure constamment, qui ne change pas. Vous pouvez avoir des circonstances difficiles. Et je peux vous dire, vous pouvez verser des larmes. Et il m'est arrivé d'en verser, il n'y a pas longtemps. Des larmes amères parfois. Mais vous avez la consolation de Dieu. Vous avez le Seigneur Jésus qui vient essuyer vos larmes et qui vous console. Et les paroles qui se font entendre à vous, qui doucement résonnent dans votre cœur. Et vous savez que vous êtes près du cœur de Dieu et que vous êtes dans sa présence. Vous êtes dans sa communion, dans sa présence spéciale. Il prend un soin spécial de vous. Il vous entoure de sa grâce. C'est le privilège du droit d'aînesse que nous avons en tant que chrétiens. Celui qui le méprise, c'est un malheureux. Et ne vous faites pas l'illusion que si vous vivez un petit peu, tout ira bien. Tout ne va pas bien, parce que Dieu demande tout. Et c'est ce tout qui est important. C'est Ésaü, l'histoire d'Ésaü ne s'arrête pas là. Malheureusement, il a méprisé le droit d'aînesse. Plus tard, quand il y a eu le moment de la bénédiction, parce que le père posait sa main sur le fils aîné, et lui transmettait sa bénédiction, c'est-à-dire que la bénédiction du père passait au fils. Et il posait la main. Et alors, qui a reçu la bénédiction ? Jacob. Bon, il a su, mais en fait, il avait acheté. Elle était à lui. Il avait trompé son frère, c'est vrai. Mais la bénédiction était devenue la sienne. Et alors, quand Ésaü, à ce moment-là, a compris qu'en même temps que le droit d'aînesse qu'il avait perdu, il avait perdu aussi la bénédiction, il a beaucoup regretté. Et il a pleuré. Le grand gaillard, costaud, musclé et poilu, parce qu'il avait une barbe et des cheveux probablement importants, eh bien, il a pleuré comme un gamin. Il a dit, mais il n'y a pas une autre bénédiction pour moi ? Et la bénédiction que le père a donnée, je peux vous garantir, ça vaut une malédiction. Tu n'auras pas, tu ne feras pas, mais tu auras. C'est une malédiction, cette bénédiction. Il a sollicité avec larmes, mais il est dit, son repentir ne put avoir aucun effet. C'est une parole solennelle, vous savez. On ne méprise pas la grâce de Dieu. C'est un verset qui se trouve, c'est au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la bénédiction. Veillez qu'il n'y ait personne qui se prive de la grâce de Dieu. Parce que c'est quand on a perdu la bénédiction, il y a un moment où Dieu ne revient pas. On est allé trop loin. Il y a un point de non-retour. Vous allez pouvoir revenir à Dieu, mais vous ne reviendrez pas comme vous auriez pu revenir. Votre bénédiction est partie, elle est passée. Je me rappelle de l'histoire de cet homme. Il était jeune, et puis Dieu l'avait appelé à le servir. Mais vraiment, un appel, hein. Et alors, les joies du monde, les examens, la réussite, l'argent, tout ça, eh ben, ça a compté plus que la bénédiction. Alors, il a préféré entrer dans une carrière lucrative. Des années plus tard, 25 ou 30 ans plus tard, il a été profondément bouleversé parce qu'il est revenu à Dieu. Et là, eh bien, il n'y avait plus la bénédiction. Dieu l'appelait comme missionnaire. Il n'est pas parti comme missionnaire. C'est trop tard. C'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a enseigné dans une école de théologie. Il a eu une petite bénédiction, mais il n'a pas eu la grande bénédiction. La bénédiction totale, parfaite. Il a eu, si je puis m'exprimer ainsi, le plan B. Il avait la grande bénédiction devant lui. Il l'a méprisée, il l'a mise de côté. Et il a eu une deuxième bénédiction, mais qui n'était jamais en proportion. Peut-être que sur le champ missionnaire, il aurait vu des âmes sauvées. Il aurait eu le privilège de construire des églises. Il aurait eu le privilège de voir les gens s'avancer pour Christ, marcher avec Christ. Je ne sais pas si je dis cela. Mais à l'école de théologie, vous savez ce qu'il faisait ? Il enseignait. Il disait, mes frères, surtout, ne manquez jamais la bénédiction de Dieu. Si Dieu vous appelle, obéissez tout de suite. Ne tardez pas, ne mettez pas cela derrière vous, parce que l'appel de Dieu est irrévocable. Si vous le méprisez, vous méprisez Dieu lui-même. Et c'est quelque chose de grave, parce qu'il voulut obtenir la bénédiction, il eut à repentir même, inefficace. C'était terminé. Il a eu un plan B. Voilà, c'est tout. Et c'est, je ne vous recommande pas le plan B. Il n'est pas le meilleur pour vous. C'est, vous êtes ce que vous êtes. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de donner nos vies, de marcher pleinement dans la bénédiction. Nous les avons, les bénédictions. Vous ouvrez votre Bible, elle est remplie de promesses. Il y a des consolations, il y a des multitudes de choses. Notre vie chrétienne est une vie vécue par la foi. Elle n'est pas vécue par la chair, elle n'est pas vécue par nos regards, par nos appétits, par nos perspectives humaines, par ce que nous pensons en tant qu'être humain, que voilà, ça c'est le meilleur pour moi. Non, nous ne sommes pas à regarder ces choses-là. Nous regardons aux choses célestes, à un bien supérieur qui est au-delà de ce qui est visible, parce que nous attendons à la récompense. Et je peux vous dire, Dieu peut vous étonner en vous demandant des choses qui sont contre la sagesse et la logique humaine. Parce que marcher dans la vie chrétienne, marcher par la foi, c'est un défi à la sagesse humaine. Et pourtant, la vie par la foi est une vie merveilleuse qui dépasse ce que vous pouvez imaginer. Mais attendez-vous, si vous faites ce fameux pas, si vous avancez dans la plénitude de la bénédiction, vous verrez à quel point votre Dieu vous bénit. Parce que c'est la bénédiction que vous cherchez. Vous regardez à Christ, vous regardez au meilleur, à ce qu'il y a de meilleur. Vous ne vous contentez pas du bas de gamme, vous ne vous contentez pas des choses médiocres, vous regardez à ce qui est supérieur. Vous êtes de ceux qui, comme le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce n'est pas une violence, je me bats avec les autres, mais c'est avec moi-même. C'est avec ma tendance à la paresse, à renoncer facilement, à dire « Oh, c'est trop difficile, je ne vais pas le faire ». Vous connaissez l'histoire du renard et des raisins, la fable de La Fontaine ? Il essayait d'attraper les raisins. Comme il n'y arrivait pas, ils sont trop verts. Il est parti. Mais ils n'étaient pas verts. Mais il n'y arrivait pas. Alors il s'est lassé, il s'est fatigué, il est allé chercher autre chose. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les gens qui se font violence, qui disent « J'irai jusqu'au bout. Je suis prêt à tout perdre, mais je gagnerai Christ. » Et vous, si vous êtes décidé, si vous êtes déterminé, vous obtiendrez. Mais si vous êtes médiocre, si vous le voulez un peu, eh bien, vous n'aurez pas grand-chose. Il faut vouloir vraiment. Je me rappelle de cet homme, c'était après une réunion un peu avec un message un peu comme celui que je viens de prononcer aujourd'hui. Il est arrivé dans sa chambre, il s'est mis à genoux, il a prié, il a dit « Seigneur, je ne me lèverai pas de mes genoux, que tu ne m'aies béni. » Quelques heures plus tard, au cours de la nuit, la bénédiction de Dieu est arrivée dans son cœur. Et là, il a eu la plénitude de Christ. Christ remplissait toute sa vie. Ah, il est sorti après, le lendemain, il a dit oh, « C'est quelque chose de merveilleux, extraordinaire, formidable, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. » Je me rappelle, je vais terminer bientôt, je me rappelle d'une expérience personnelle, je ne vais pas tout raconter, mais j'ai découvert quelque chose de merveilleux au sujet du Seigneur Jésus-Christ pour ma vie chrétienne. Et j'étais à Limoges à cette époque, et alors c'était un samedi, ça m'est arrivé vraiment quelque chose de merveilleux, extraordinaire avec le Seigneur Jésus. Et puis... Je vais le dimanche, je vais au culte et je marchais sur le trottoir et le pasteur de l'église de Limoges était sur le trottoir et quand il m'a vu arriver, il a dit « Jean-Alain, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu sais qu'il s'est passé quelque chose ?» Ah, il m'a dit « ça, c'est tout sur toute ta personne que ça se voit qu'il s'est passé quelque chose. » Parce que quand il y a quelque chose qui se passe entre le Seigneur Jésus et nous, c'est pas un secret. Il le fait, il le manifeste, et gloire à Dieu. Louange à notre Dieu, qui nous a donné de tels privilèges, qui nous a donné une si grande bénédiction, qui surpasse toute intelligence, tout ce que vous pouvez imaginer, qui dépasse tout ce que vous pouvez décrire avec votre langue, avec votre plume, avec... C'est au-delà de tout. Les choses, je peux vous dire, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, j'ai des superlatifs, hein, mais les mots ne suffisent pas. C'est quelque chose de si grand et si merveilleux que je vous recommande de le vivre. Et vous verrez à quel point c'est grand et c'est merveilleux. Et vous ne saurez pas non plus à trouver les mots pour le dire. parce que c'est bien plus grand, bien plus merveilleux que ce que vous pensez.